présentons dans la série d'écran radiophonique un scénario original de Jean-Pierre Junière. Les conspirateurs, mise en scène, production de Jean-Pierre Junière. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur.
Thank you.
dans la salle des fêtes de Vénissieux, soirée théâtrale. La compagnie du peuple présente Pas de cul, cul, Kurberg. 1879-1930, auteur dramatique berlinois. La salle des fêtes est remplie de gens du peuple en dimanche, mal à l'aise. Un souvenir, rien qu'un souvenir, c'est tout. Gérard, rien que lumière s'éteint. La scène noire, sur le côté droit, une grande table de bois rustique, avec dessus trois verres à eau banale. Bouteille de vin quelconque, quatre chaises à bois, trois hommes assis à table face au public, là, habillés de bleu de travail, très là, veste de velours marron, plus casquette. Ils ont à peu près dans les 50 ans. Celui qui est à droite tape du poing sur la table. Eddie. Le patron cédera. Celui qui a dos fait la même chose. Et dit, le patron cédera. Et celui qui est au milieu tape du poing sur la table. Se lève en brandissant le poing et dit, le fasciste ne passera pas. La lumière s'éteint et on ne les voit plus. Notre lumière éclaire le fond de la scène sur le côté droit.
Entendu la porte de l'allée,
on y voit
de s'ouvrir.
Sur une estrade se retourne quatre hommes habillés en gabardine
en
beige et longue,
des tresses, des lunettes,
un chapeau
bien.
De même qui
se sent gêné,
qui cache en partie le visage.
Ils sortent de l'allée.
Ils ont tous des moustaches à l'éclair. Et font le salut nazi.
Quelque chose lui dit
au milieu d'eux
qu'il ne reviendra plus
petit que en costume noir et rayures blanches.
Juste
costume croisé, la chemise blanche, cravate large, chaussures blanches. C'est le patron. Une autre lumière en plus montre une femme qui traverse la scène de façon excentrique. En poussant des cris, des rires, elle a une robe du soir argentée qui brille, coiffée à la 1920. Porte un collier de perles longs et maquillée d'une façon outrancière. C'est la femme du patron qui symbolise la débauche. Voilà, dès les premières minutes de la pièce, on a tout dit. Tout compris. Mais non, ça ne suffit pas. On est auteur dramatique ou on ne l'est pas. Alors il faut pendant 1h45 dire inlassablement la même chose. Et en plus le metteur en scène, qui veut lui aussi mettre son grain de sel, en rajoute. Et puis, pour faire encore plus indigeste, il fait une mise en scène nihiliste. Pas de décor, un fond noir, faire jouer les acteurs faux avec des expressions de clown. Dans la foule, au milieu de ces pauvres spectateurs, se trouve un homme de taille moyenne, gros. Il soupire et se dit, et dire que je suis forcé d'aller voir ça, comme tous les employés de la mairie, nos chefs nous ont dit d'y aller. Il faut bien qu'il trouve un public. Sans nous, la salle serait vide. C'est normal. Qui c'est qui voudrait aller voir de telles inepties et dire que j'étais obligé de payer de ma poche 100 francs, demi-tarif. C'est le comité d'entreprise qui paye le reste. Je suis obligé d'y aller à cause que j'aurais était mal vu et mon augmentation zéro.
On est mal assis sur ces chaises en plastique et mon costume des dimanches me sert. Et dire que ma femme regarde tranquillement la grande vadrouille à la télé. Je m'emmerde. Mais qu'est-ce que je peux m'emmerder? C'est mal joué. Ils sont nuls. Et c'est tout noir. J'ai envie de pisser. C'est fini. Il salue le public. Le public applaudit. Ouf, c'est fini. On ne lui reprendra plus. Il est quelle heure? 22h50. Merde alors. Merde. 22h50. Il faut cela pour des gens comme nous, qui soi-disant nous comprennent, ils savent pas qu'en semaine on doit se lever tôt pour aller travailler. Ces intellos, ils ne connaissent rien au peuple. Ils nous font chier. Regardez-moi ces cons, ils sont satisfaits. Ils ont fait leur béant pour le peuple. À cause d'eux, je vais me coucher presque à minuit. Il suit la foule qui se dirige vers la sortie. Les gens ne disent rien. Ils sont là, fatigués, courbaturés, énervés d'avoir perdu une soirée et de l'argent. Enfin la sortie. Tiens, il y a mon chef devant la porte. Il doit voir qui est venu. Il est en costume cravate lui aussi. J'espère que j'ai pas l'air aussi con que lui. Son chef est un gros et grand gaillard. Alors Gérard, cela t'a plu? Oui, chef. Ah, tu vois, je te l'avais bien dit. Alors n'oublie pas, demain, 6h45, devant la mairie, avec ton balai. Oui, chef. Quel con celui-là me parler de travail à 23h, en plus de m'avoir fait perdre une soirée. Quel con. C'est dur pour le peuple. Si l'on est dans un pays qui a un gouvernement de gauche ou simplement une commune de gauche, il n'a pas le droit de se distraire, mais il doit se cultiver. Interdiction de se détendre, de rigoler. Cela ne m'étonne pas que le peuple aime mieux voir une pièce de droite, bourgeoise ou non politique, que ces machins soi-disant pour eux. Lorsqu'ils vont au spectacle, ils veulent se changer les idées, voir un autre monde que le leur. Et pour le bourgeois, c'est la même chose. Eux, ils aiment voir les pièces militantes de gauche, et puis en plus de ça, ça leur donne bonne conscience. Ils ont l'impression, en allant voir ces spectacles, de compatir sur le problème des prolétaires et de mieux les connaître. Et pour connaître les problèmes des prolétaires des années 90, il faut voir des pièces germaniques écrites au début du siècle, avant 1939. Le lendemain à Libération, l'on lira « Triomphe de la compagnie du peuple » avec la pièce de Breitkirchkoff de Kullberg. Représentation dans une salle comble de la maison du peuple de Vénissieux. Gérard est allé rejoindre son HLM qui est à 5 minutes de la salle de spectacle. Il habite dans une grande barre au 5e étage, à 3 pièces cuisine. Il est marié, la fille une amie de sa mère. Sa mère tenait à ce que les choses se fassent vite, l'on jasait dans le quartier. La conspiration a été bien menée. Il s'est retrouvé marié en un rien de temps. Et comme son beau-père travaille à la mairie de Vénissieux, il a eu son HLM et un emploi de cantonnier. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle maintenant ce métier. Il n'a plus de nouvelles d'Émile et ne cherche pas à en avoir. Pour lui, c'est le souvenir d'un paradis perdu. Nerveux, fatigué. Bien sûr, il y a Chantal et ses relations avec elle ne sont pas faciles. Et puis, les études. Les examens approchent et il faut travailler dur. Il a du temps à rattraper car il a passé beaucoup de son temps à sortir avec Chantal. Il avait beau lui dire qu'il n'avait pas le temps, elle, comme toutes les personnes qui ne font rien ou presque rien, s'imagine que pour les autres, c'est la même chose. Donc, il est fatigué. Dès qu'il s'assoit pour lire ou écrire, au bout de 5 minutes, il a sommeil. Il essaye de manger du sucre, de boire des jus de fruits, rien n'y fait. Alors, il se dit qu'il faut qu'il aille voir un médecin pour qu'on lui donne des remontants. Il téléphone au médecin famille qui lui dit « Je ne peux pas vous recevoir pour le moment, j'ai beaucoup de rendez-vous. Mais j'ai ma fille qui est aussi médecin, si cela vous intéresse. » « Oui, merci. » « Voici son adresse, c'est Madame Valérie. » Pierre note le nom et l'adresse. Puis il téléphone pour un rendez-vous à Valérie. La secrétaire lui dit « Vous pouvez passer à 16h si cela vous va. » Oui, merci. lendemain, à 16h, il sonne chez Valérie. Son cabinet est dans son appartement. Tout le palier lui appartient. Il y a une porte pour les malades et une pour la famille. La secrétaire le fait entrer et le mène dans la salle d'attente. Pièce carrée, sans fenêtre, avec des chaises et une table basse. Une porte s'est ouverte et Pierre voit une grande femme mince, rousse, très belle en blouse blanche. Il est tout de suite ébloui par elle. Elle est tellement féminine que pour lui c'est la femme. Elle lui dit « Monsieur, vous pouvez entrer ». Il se lève et va vers elle. Bonjour madame, bonjour monsieur. Elle le fait rentrer dans son bureau. Qui est une grande pièce claire au mur blanc avec quelques tableaux, un bureau, une bibliothèque, une commode, des meubles, son Louis-Philippe. Asseyez-vous. Il s'assoit. Elle s'est assise à son bureau. Alors, dites-moi ce qui vous amène. Fatigue intellectuelle, elle sourit et dit. Dieu aussi a des nuits blanches à s'amuser. Qu'est-ce qui vous fait penser à cela? En période d'examen, nous recevons beaucoup d'étudiants. C'est toujours la même chose. Durant toute l'année, ils s'amusent, sortent beaucoup le soir et l'examen approche. Alors il faut travailler double et sans pour autant se passer de sortie. Ça vous fatigue. Si vous êtes fatigué, c'est votre faute. Une vie régulière toute l'année et vous n'auriez pas cette mine de papier mâché. Pierre lui dit, ce n'est pas facile, vous savez, nous sommes très sollicités. Bon, les examens sont dans combien de temps? 2 mois. C'est bien. Vous n'êtes pas venu à la dernière minute. Je vais d'abord vous examiner, prendre votre tension, corps, voir vos réflexes, votre vue. Ensuite, nous verrons. Pierre est surpris. Il la trouve très énergique. Elle lui dit, vous allez vous déshabiller et passer dans la pièce d'à côté. J'enlève le haut en slip. Je vous pèserai aussi. Pierre regrette de l'avoir choisie comme médecin. Il aurait aimé la connaître ailleurs. Là, elle va le connaître son corps en entier et même le battement de son sang, avant que lui ne connaisse quoi que ce soit d'elle. Elle se lève. Il va dans la pièce à côté. Lui se lève pour se déshabiller. Une fois en slip, il la rejoint dans la pièce d'à côté. Elle lui dit, mettez-vous sur la balance. Pas bien gros, dites donc. Quelle taille? 1m77. Il vous manque 5 kilos pour votre taille. Enfin, vous êtes jeune. Quel âge avez-vous? 23 ans. Pierre est tout rouge. Elle sait son âge. Elle sait son poids. Elle met sur la table du papier brun. Montez sur la table. Il s'allonge. Elle lui écoute le corps. Respirez. Respirez plus fort. Respirez. Le regard des mains. Votre peau est moite. Pierre a honte. Comment osera-t-il lui faire la cour maintenant qu'elle sait qu'il a la peau un peu moite? Elle lui essaie les réflexes. Pas fameux. Vous faites du sport? Oui, un peu. Bien, vous pouvez aller vous rhabiller. Pour cacher quoi? Elle connaît tout de moi maintenant. Tout de moi. Une fois qu'ils sont assis, tous les deux, elle lui dit « Vous n'avez rien, un peu de fatigue, c'est tout. Un petit traitement et vous repartirez. » Elle lui fait son ordonnance. Pierre est triste car il se dit que c'est dommage. Il aurait bien aimé avoir cette belle femme. Quelle stupidité la vie. Dans quelques minutes, ce sera fini. Le téléphone a sonné. Elle décroche. « Allô? Oui? Bonjour, père. Mais non, je ne peux pas. Je suis toute seule. Ma secrétaire vient de partir. Je ne peux pas attendre demain? » Elle soupire. Bien. Et raccroche. Pierre voit qu'elle semble énervée. Elle lui tend son ordonnance et papier pour la sécurité sociale. « Voilà, monsieur. » Elle soupire. Il lui demande sans réfléchir. Vous n'êtes pas bien? Vous avez des soucis? Elle soupire. Et lui dit. Oui, mais pas très important. Enfin, je peux vous aider? Elle le regarde bien et lui dit. Pourquoi pas? Tiens, vous me semblez fort. Voilà, mon père m'a demandé de lui apporter un petit meuble et des cartons de dossier. Paraît-il que c'est urgent. Ça se trouve au grenier et c'est horriblement lourd. Et je m'en sens ni très propre non plus. Moi tout seul, je m'en sens pas le courage. Mais avec vous peut-être, il lui dit, essayons. Elle dit, bien, allons-y. Il se lève. Elle quitte sa blouse pour la mettre sur le dossier de sa chaise. Sorte du bureau. Et elle lui dit, attendez, je vais chercher les clés. Elle l'a laissé une minute seule et revient avec les clés. Il sort de l'appartement. Ils prennent l'ascenseur. Au dernier étage, montent un étage et sont dans le grenier. Elle va ouvrir une porte. sont pris par une bouffée d'air humide et poussiéreuse. Une lucarne permet de faire passer le jour. Beaucoup de bric-à-brac, comme dans tous les greniers, mais avec en prime des toiles d'araignée et de la poussière. Elle lui dit, « Voilà, c'est la commode là-bas qui est à descendre, plus les cartons qui sont à côté. Ils y vont. Il faut se faufiler et se frayer un passage. » La commode Lucas est recouverte d'une couverture. Elle lui dit, « On essaie de la sortir ?»« Oui, ils essayent de la soulever. » Mais elle est un peu trop lourde. Alors, ils vont la pousser jusque vers l'ascenseur. Ce n'est pas facile, car le sol n'est pas régulier. Vers l'ascenseur, ils sont essoufflés. Elle le fait venir, ouvre la porte et ils mettent la commode dedans pour la descendre. Il lui dit, je vais être obligé de la dépoussiérer. Vous resterez sur le trottoir pendant que je vais prendre des chiffons chez moi. Je suis vraiment navré. Aucune importance, je n'ai rien à faire, dit Pierre. Ils sortent la commode de l'immeuble. Elle retourne chercher des chiffons, il reste à l'attendre. Elle revient nettoyée. Puis ils mettent la commode dans la voiture. Sur les sièges, derrière repliés. Ensuite, ils sont allés chercher les paquets. Une fois que tout est fini, ils se sont regardés sur le trottoir. Elle a vu le visage narci, les vêtements poussiéreux. Je crois qu'il faudra que l'on aille se nettoyer un peu avant de partir. Vous êtes tout sale. Il lui dit en riant. Et vous aussi. Elle se regarde. Ses vêtements, ses mains, tout noir. Mon Dieu, je dois être horrible. Surtout, ne riez pas. Mais je ne ris pas. Elle lui dit, venez. Ils ont repris l'ascenseur pour aller chez elle. Elle se regarde dans la glace. Mon Dieu, ce visage et ses cheveux, je suis horrible. Il rit et dit, mais non, vous êtes charmante. Elle le regarde bien. Surprise, un gamin, oui, c'est un gamin, mais tout de même, 23 ans. Elle lui dit, ne vous moquez pas de moi, vous aussi, mais pas joli à voir. Ils arrivent. Elle va le faire rentrer chez elle, comme côté cabinet de médecin. Elle lui dit, je vais vous mener à la salle de bain. Il la suit. dans un dédale de couloir. Elle ouvre une porte. Elle lui dit, voilà, les serviettes propres se trouvent dans le petit meuble. Il lui dit, c'est à vous de nous nettoyer en premier. Allez, ne faites pas d'histoire et lavez-vous en vitesse. Il ferme la porte de la salle de bain. Quitte sa chemise pour se mettre torse nu. Nettoyer sur de la pièce. Elle la retrouve dans le couloir. Elle lui dit, ben voilà, c'est mieux. Et elle entre dans la salle de bain. Il se dit, peut-être que le destin est avec moi. Elle semble plus simple, plus douce en dehors de son métier. Il attend devant la porte. Au bout de 20 minutes, elle est revenue. Elle lui dit, vous n'auriez pas dû m'attendre ici. Il fallait vous asseoir. Elle lui sourit et lui dit, je suis mieux ainsi, n'est-ce pas? Il la regarde. Elle est vraiment très belle. Oui, vous êtes très belle. Il baisse les yeux et voit que son bas a filé. Elle lui dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose? C'est-à-dire votre bas, il a filé. Elle le voit. Oh, zut, je le change? Pas la peine. Oh, et puis si. Elle retourne dans la salle de bain. Elle revient avec des bas neufs. Ça va comme ça? Oui. Il faut toujours que l'on soit impeccable avec vous. Il lui dit, de toute façon, je vous trouve très belle. Elle ouvre ses épaules et lui dit, je voulais vous dire aussi, c'est que la fermeture est claire de votre pantalon. Il a descendu ou craqué. Il regarde Pono et la remonte. Il est tout rouge. Elle sourit et dit, ce n'est pas grave avec moi. Il lui dit, « Oui, je sais, vous savez tout de moi, même le battement de mon corps. » Elle lui dit, « Et votre poids ?» Il lui dit, « Et ma pommade ? Oh, si peu ?» Il lui dit, « Vous savez tout sur moi, et moi je ne sais rien. Moi qui aurais aimé que l'on fasse connaissance, ce n'est pas possible. J'aurais trop honte de chercher à vous séduire dans ces conditions. » Elle sourit et lui dit, « Ce que je connais de vous, ce n'est pas l'essentiel. Et quel est l'essentiel? Ce que vous êtes vraiment? Ce que cache ce beau visage? Par exemple ?» Il rougit et lui dit, « Il se fait tard. Il faut que nous passions livrer chez mon père. » arrivé chez le père de Valérie. C'est lui qui leur a ouvert. Elle lui dit « Tu peux remercier ce jeune homme de m'avoir aidé. Et pourquoi cette urgence ?»«
J'ai un acheteur pour la commode, mais il part tout de suite pour l'étranger. »
Une fois que la commode a été montée, les paquets aussi, le père les a aidés, ils ont bu un verre. Je vous raccompagne ? Non, pas la peine. Je ne sais comment vous remercier. Il lui dit, acceptant mon invitation pour aller au restaurant samedi en fin de matinée. Elle le regarde bien et se dit, ce n'est pas si mal de se faire draguer par un jeune homme. Je ne peux pas vous refuser après ce que vous avez fait pour moi. Bien, alors, je viendrai vous chercher à 11h samedi matin. Et il la quitte. Regarde bien et se dit, ce n'est pas si mal de se faire draguer par un jeune homme. Je ne peux pas vous refuser après ce que vous avez fait pour moi. Bien, alors, je viendrai vous chercher à 11h samedi matin. Et il la quitte. Décidément, le hasard est avec lui. Il faut tenter la chance. Il a oublié Chantal. Valérie, de son côté, trouve drôle de se faire courtiser par un jeune homme. Cela va la changer de ses hommes mûrs. Chez Valérie. C'est elle qui lui a ouvert, prête et excitée. Bonjour, entrez, je vous en prie. Il entre, elle ferme la porte. Elle lui dit, vous voulez boire quelque chose avant de partir? Non, merci. Vous savez, j'ai failli ne pas pouvoir. Mon mari m'a annoncé qu'il rentrait plus tôt que de coutume. Heureusement, elle a arrêté son avion. Pierre sourit et se dit, « Tiens, tiens, elle a peut-être eu l'idée de faire ce que je souhaite. » Elle hausse ses épaules et dit, « Bon, je prends mon sac et nous y allons. » Elle revient et lui demande « Comment me trouvez-vous ?» Elle se tourne, elle porte une robe blanche toute simple, mais qui lui va à ravir. « Vous êtes très belle, Merci. Allons-y.
Et ils sortent de l'appartement.
Dans la voiture, elle lui demande « Où allons-nous ?» Il lui dit « C'est une surprise. » Et il démarre. Elle lui dit « J'ai l'impression que vous m'enlevez. Vous avez peur ? J'aime les sensations fortes. » Et lui dit « Comme celle d'ouvrir le ventre des gens ou de leur couper des membres. » Elle rit et lui dit « J'espère que vous ne parlerez pas de cela durant le repas. » D'un moment, elle s'aperçoit qu'il a quitté la ville et pris le périphérique. Mais où allons-nous ? N'ayez pas peur, je vous mène dans un restaurant dans le Beaujolais, pas bien loin de Beaujieu. Sur une hauteur en pleine forêt, il y a un restaurant qui fait en même temps hôtel et école hôtelière. C'est excellent, le service aussi. Bien, je me laisse guider, mais je veux rentrer avant la nuit. Promis. Après 2 heures de route, ils sont arrivés au restaurant qui est vraiment superbe. Sur une hauteur, en plein milieu de sapins, il y a plusieurs étages avec de grandes baies vitrées. Ils y rentrent. Les tables sont mises d'une façon impeccable. Service en argent. Le service est tenu par les élèves en habit noir et le papillon. On leur trouve une table près d'une baie vitrée. Ils ont choisi le menu. Valérie est assise en face de Pierre. Elle lui dit « C'est vraiment très beau. Et vous verrez la cuisine aussi. » Tout en mangeant, il se regarde et lui demande « Ça fait longtemps que vous êtes mariée ?»« Oui, enfin pas vraiment 5 ans. Un coup de tête et puis... » J'avais besoin d'un homme avec moi pour que je puisse être épaulée. Vous êtes heureuse ? Oui, j'ai un enfant. Oh, je n'ai aucune chance. Elle lui dit, il ne faut jamais dire cela. Et vous, vous êtes fiancée ? Non, enfin, pas tout à fait, parce que je me pose des questions et je ne sais plus si je l'aime vraiment. Je crois que j'en aime une autre. Elle se sert un verre et lui dit « L'amour, le grand secret. Peut-on être vraiment sûr d'aimer une personne ?» Il lui dit « Je crois que oui. Comment ? Vous veniez de me dire que vous n'étiez pas sûr. Je ne suis pas sûr pour la personne qui veut être ma fiancée, mais je suis sûr pour une autre personne. Et comment ?
parce qu'elle me connaît en partie et qu'elle ne m'a pas repoussé. Elle pose son verre et dit « Et qui est cette personne ?»«
Vous ?»«
Moi ?»« Mais je ne vous connais presque pas. » Ne dites pas cela après la visite. Elle rédit « C'est peu de choses. » Et lui dit « Vous trouvez normal, vous ?» Que vous saviez déjà tout sur moi et moi rien. Mais je suis médecin. La belle affaire.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les Conspirateurs. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.